Rencontre avec. Le mot rencontre se définit curieusement par rencontrer quelqu'un ou quelque chose, de manière fortuite ou non, sur son chemin. Comme si le mot rencontre se définissait par rencontre. J'ai rencontré Dimitri Bortnikov le mardi 3 avril 2023 avec mes élèves de la Nouvelle Chance et la classe de seconde MV1 et leur professeur Thomas Lopez. Troisième et dernière partie de la rencontre avec Dimitri Bortnikov, où l'on apprend qu'au commencement était Maria, la figure de la mère et non le verbe, où l'on apprend comment échapper à un ours et comment l'ours blanche apprend à ses petits à chasser, comment pêcher et pourquoi il faut apprendre à pêcher, qu'écrire en français quand on est russe est une manière de parler d'amour, que l'écrivain ne doit jouer aucun rôle dans la société, mais que si nous voulons grandir et être quelqu'un de bien et de beau, il faut faire quelque chose pour l'autre. Lecture de l'Incipit de l'Agneau des Neiges. Au début, ce n'était pas le verbe. Au début, était la mère. Ça a commencé par une naissance sans un cri, une naissance silencieuse. Maria a vu le jour quand la révolution s'est mise à table pour dévorer ses enfants. Et plus elle mangeait, plus elle avait faim. Ça a commencé dans le nord, quand les derniers blizzards arrivent, grands blizzards. Quand le vent se cabre et passe dans la forêt, galope sur les cimes des sapins géants et que les bouleaux se mettent en transe, se penchent, se balancent comme des moines en prière et l'esprit souffle « ouh » sur la glace marbrée de la Dvina. Et les barques prises dans la vieille glace soupirent, gémissent, le vent se déchaîne, Knut, les bannières déjà bien en lambeaux sur les bateaux des pêcheurs et les bannières s'affolent, faseillent comme un guépard en pleine course, et puis le vent retombe, les drapeaux se calment, on doit, tel un tigre qui descend la montagne. Oui, lorsqu'un enfant naît, même dans un désert à midi, il a froid, l'enfant, il crie, l'enfant, il tremble. Tout à la fin. Quand les renards s'accouplent et au cœur de la forêt, les ombres deviennent bleues, les nuits de pleine lune. Maria est sortie de sa mère au moment où celle-ci s'est agenouillée devant le poêle pour faire du feu. Elle s'est renversée sur le dos et l'enfant est venu, sans cri ni douleur, la levain portée par les eaux vers la chute des âmes. C'est une fille, a dit la mère au père de la fille. « Regarde-la, ses mains en amande, comme en train de prier. Elle ne pleure pas, elle ne tiendra pas longtemps. » Maria ne criait pas, elle n'avait pas froid, ne tremblait pas. Mais ce que la mère a caché à son mari, c'est le pied de l'enfant. La petite est née pied beau, pied gauche, aussi gros que sa tête.
Nous, on a vu, en fait, dans l'étude du livre, que, enfin, trouvait en tout cas, comme piste, que Maria recouvrait, en fait, ici, l'archétype d'un personnage un peu qui recouvrait, en fait, ici, de l'héroïque, le personnage héroïque, le héros du quotidien, et puis il y avait aussi un héros épique. Et puis, il y avait une espèce de correspondance qu'on pouvait faire, en fait, avec la tradition populaire du conte, mais aussi du mythe. Comme avec les 12 enfants, comme avec les 12 travaux d'Hercule.
12 zodiaques.
Exactement.
12 apôtres.
Trouver en fait ce qui nous a fait penser justement à cette tradition orale, surtout avec la narration. On retrouve certaines fois le langage en fait, avec les onomatopées, le langage, comme si quelqu'un était en train de parler, de s'exprimer. Donc, on a vu derrière le personnage de Maria une sorte de Hercule moderne, en fait.
Oui, ça peut être un Hercule.
Sachant qu'en plus, vous avez choisi de ne pas lui donner, en fait, de généalogie.
Non. Il y a juste sa mère et son père.
Ils n'ont pas de nom.
Ils sont anonymes. Ils n'ont pas anonymes, oui.
Donc, en fait, on ne sait pas si le personnage de Maria a vraiment existé, s'il est légendaire. Si... Et du coup, ça lui donne aussi ce caractère... Oui.
Mais ce n'est pas pour rien, ça commence la première phrase. Au début, ce n'était pas le verbe. Au début, c'était la mère. Et d'où vient cette phrase ? Au début était le verbe. Ça vient d'Évangile de Saint Jean. Au début était le verbe, et le verbe était auprès de Dieu. Après, il est descendu vers nous, mais nous, on n'avait pas reconnu le verbe, et on l'avait tué. Point barre. Je vous fais court. Vous avez parfaitement raison, elle peut être considérée comme Hercule des temps modernes, parce qu'il accomplit ce que les gens en bonne santé ne peuvent accomplir. Et moi, je pense que c'est vraiment l'espoir mythologique qui existe, même au-delà de nous, c'est que parmi nous, le plus faible peut s'avérer le plus fort. Et le plus fort peut s'avérer le plus faible. Et n'importe qui peut être un héros, un personnage mythique. N'importe qui. Mais pas en faisant n'importe quoi. Donc, 12 enfants. Et il faut aussi remarquer que les 12, ils ne sont pas tués. Ils sont morts. Ils sont morts de froid et de faim. Et elles partagent cet ours entre eux. Et l'ours, c'est le sacrifice. C'est le sacrifice totémique. Parce qu'en Russie, l'ours, c'est le totem. C'est pas pour rien. On dit aujourd'hui, en parlant de la Russie, le grand ours, le grand ours, le grand ours. Et donc, elle le partage. Et elle se donne après elle-même en sacrifice. Il y a une phrase. Il commençait à neiger. C'est rythmé par la neige. Le récit est rythmé par la neige. Chaque fois, la neige recommence. L'histoire recommence. Après la mort de chaque enfant, l'histoire recommence. Il y a la question du sacrifice. Ça, c'est vrai. Le don parfait. C'est le don, vrai don, c'est le don de soi. C'est le vrai don. C'est le dernier sacrifice qu'on peut faire. Se donner pour sauver quelqu'un. Et grand Gandhi disait que tout ce qui n'est pas donné est perdu.
Vous pouvez nous en dire plus sur l'ours en...
Ah, ça.
Parce que moi, je ne sais rien.
Sur la pêche, parce que c'est très présent. Ouais. On va pêcher les arbres. Ouais.
Oui.
Cette relation avec la mer et la pêche aussi. Ouais.
Donc, je vais commencer par l'ours. Un jour, avec mon père, on est allé vers les monts d'Oural en voiture, et pour se protéger des serpents, parce qu'on dormait par terre, pour se protéger des serpents, on a mis autour de nous une corde faite avec la crinière de chevaux, parce que les serpents ne peuvent pas, c'est tellement piquant, les serpents ne peuvent pas traverser. Donc on est dormi bien au chaud sous notre 4x4, et il y avait autour de nous une corde. Et on dormait, 4x4 se refroidit très lentement, parce que c'était un 4x4 militaire, donc il se refroidit très doucement, et toute la nuit, on était au chaud. On n'avait même pas besoin ni d'une tente, ni de rien. Et un jour, enfin, le lendemain, on ouvre les yeux et on entend. Je dis, moi j'entends. Je me réveille, mon père ronfle comme un Hercule ivre. Je dis, papa, c'est toi, arrête de ronfler. Il ouvre les yeux, il dit, non, c'est pas moi. Ne bouge pas, c'est l'ours. Et l'ours rôdait autour. Mais heureusement, on a oublié de fermer le 4x4. L'ours, là, on ne voit rien. On a la trouille, terrifiant. On ne voit rien, parce qu'on est allongé comme ça. Mais avec nos oreilles, on voit. On entend qu'il ouvre la portière de la voiture. Il rentre à l'intérieur et il commence à fouiller dans les affaires. Et heureusement, j'étais gourmand. Et je voulais à ma mère une boîte de lait concentré, sucré. Et j'attends l'ours qui frappe la boîte pour l'éclater. Je sors ma tête et je vois l'ours. C'était pas un grand ours, c'était un ourson. Mais un ourson de 18 mois. Mais c'était déjà une bête impressionnante. Il lèche la patte avec laquelle il a frappé. Il a ouvert l'aplati complètement. D'un coup. Il lâche. Il lèche. Je peux vous dire, 3 secondes, on était dans la voiture, habillé, voiture fermée, et on est reparti. L'ours, il a eu plus de peur de nous que nous, de l'ours. Et un jour, quand je faisais mon service militaire, en Russie, c'était en Yakoutie, c'était au pôle Nord, et là-bas, on a vu les ours polaires. Et avec eux, ça rigole pas. Avec les ours bruns, on peut encore discuter, on peut négocier. Mais avec l'ours blanc, toutes les négociations, c'est niette. Il vous mange, il vous dit merci, il vous remange. Donc il y avait des... Est-ce que vous avez vu un ours blanc, mère, qui apprenne à ses enfants chasser, à ses oursons? La première fois, quand j'ai vu ça, j'étais mais scié en 4. Regardez-moi bien. Un ours, la mère, s'allonge à côté deux oursons. On voit leurs yeux et on voit leur pif, parce qu'ils sont tout blancs, mais il y a le nez et les yeux noirs. Ils n'ont pas les yeux bleus, hein, ils ont les yeux noirs. Donc ils regardent, la mère regarde. Il voit un phoque à 100 mètres. Le phoque ne les voit pas. Après, le phoque les voit. Et qu'est-ce qu'il fait, la mère? La mère, elle ferme les yeux, il cache le nez. Et elle devient complètement invisible sur le blanc, dans la neige. Et les gosses, les oursons, en regardant leur mère, répètent exactement le même geste. Hop, hop, devient invisible. Il le phoque, il le regarde, bon, rien. Et comme ça, il se met à ramper, l'ours. Et deux oursons derrière. Et quand il ouvre les yeux et le nez, c'est trop tard pour le phoque. Eh oui.
L'ours, mais il y avait une question sur la pêche aussi.
Sur la pêche. Bon, la pêche, c'est une chose assez compliquée parce que il y a des gens, pour être bon pêcheur, il faut être né pêcheur. Pour être un bon cuisinier, il faut être né cuisinier. Il faut avoir un destin. Mon père, il était vraiment un très très bon pêcheur. Parfois, il disait, je peux pêcher les poissons même dans la chambre de patates. Ouais, en champ de patates, pêcher les poissons. Les autres pêcheurs disaient, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, bah, creusez-moi un trou de 2 mètres, remplissez de l'eau et je vais pêcher. Mais pas loin de la rivière. Et donc, il savait très bien que quand les petits de cendres se mettent à pondre, enfin, se mettent à, enfin, devient alevin, ils sautent. Ils sautent assez loin de l'eau, hors de l'eau. Ils sautent à 2 ou 3 mètres. Donc, un pêcheur lui dit, bon, je vais creuser à côté. Il a creusé à côté, 4 mètres. 3 jours après, mon père vient avec une épuisette. Il y a des petites cendres. Mais comment tu fais? Il dit, mais il faut connaître. Donc, la pêche, comme la chasse d'ailleurs, c'est un art. Parce que le chasseur devient un animal quand il chasse. Pour reconnaître les traces, il faut être animal. Et j'ai vu les chasseurs qui se penchaient à 4 pattes, qui reniflaient les traces, qui prenaient, qui sentaient, et qui arrivaient à connaître les habitudes de l'animal, comme à la pêche. Pour connaître là où le poisson arrive, il faut connaître l'endroit. Il faut être un peu poisson aussi. Mais après, l'expression « pêcher les âmes », c'est une expression biblique. C'est l'expression évangélique. Quand Jésus, vous connaissez cette histoire ? Bon, je vais vous faire votre catéchisme à la fois. Donc, imaginez, vous êtes au bord de mer et vous avez besoin de copains. Voilà. Vous avez besoin de copains, je ne sais pas, pour braquer une banque. Vous marchez, il y a des copains, enfin, il y a des gens qui pêchent. Et qui n'arrivent à rien à trouver. Ils sont pauvres. Ils pêchent toujours dans le même endroit. Ils n'arrivent rien à trouver. Rien, rien. Même pas une crevette dans une épuisette. Rien. Même pas une moule. Ils sont affamés. Vous arrivez et vous dites, les gars, mais pourquoi vous pêchez ? Je connais une banque. J'ai un plan. Et on va pêcher les âmes là-bas. Mais dans la vraie expression de Jésus, ça veut dire pêcher les hommes, les prendre dans les filets de la bonne nouvelle. Il voulait annoncer une bonne nouvelle. Pour annoncer une bonne nouvelle, on n'arrive pas à parler aux gens comme ça. Bonjour ! On n'est pas les politiciens. Jésus n'était pas politicien. C'était quelqu'un qui savait comment faire. Il voulait apprendre aux autres. Dites-moi, vous préférez que vous préférez demander de la nourriture ou vous préférez de demander de vous apprendre à comment on pêche pour pêcher tout seul, n'est-ce pas ? Apprendre, bien sûr, parce que sinon chaque fois, monsieur, j'ai faim, j'ai besoin d'un poisson, il vous donne un poisson. Une fois, deux fois, après il dit, mais tu veux pas apprendre à pêcher ? Ah oui, je veux bien. Bon, et comme ça, vous pêchez. Bon, je sais pas si ça, j'ai pas dans le décor. Oh, j'ai pas vu le temps passer. Hein. Moi personnellement, je peux continuer encore.
On peut lire sur votre biographie que vous êtes originaire de Russie, que votre langue maternelle c'est la Russie, mais pourquoi vous avez choisi d'écrire ce livre en français et pas en Russie, ce qui aurait été plus simple pour vous ?
Je ne sais pas, parce que je suis en France, mais quand vous êtes en France, vous parlez français. Donc. Non, j'ai commencé à écrire en russe au début. Mais quand je suis venu en France, je me suis mis à écrire en français. Mais, oui. Mais par exemple, si vous tombez amoureux d'une fille sourde, muette, quoi que vous lui dites, elle n'entend rien, elle va dire « Quoi ?» Il faut apprendre la langue des signes pour lui dire que vous l'aimez. C'est tout.
Donc, vous avez appris le français pour lui dire que vous l'aimez.
Oui.
C'est ça la réponse. Mais je trouve que ça se sent quand même qu'il y a une autre langue derrière.
Absolument.
Et que du coup, vous écrivez en français très bien, mais on sent...
Que c'est le français qui vient qui vient de loin.
Ça apporte quelque chose au français, en fait.
Sans le refroidir pour autant.
C'est ça.
Ben,
merci.
Merci à vous. Merci d'être...
D'après vous, quel rôle, quelle place a un auteur de roman ? Peut-il ou doit-il jouer dans la société ? Peut-il ou doit-il jouer dans la société, dans la littérature ?
Je crois aucun rôle. S'il peut jouer déjà le rôle de lui-même, c'est déjà pas mal. Mais moi, je pense qu'un écrivain ne doit pas ni faire de la politique, ni dire aux gens comment ils font être, ni se prendre trop au sérieux. S'il est né pour écrire, il faut qu'il écrive. Et après, s'il meurt, il faut qu'il meure. La politique, pour moi, c'est la masturbation.
Est-ce que c'est pas comme ce que vous disiez tout à l'heure, un cuisinier doit donner envie justement d'avoir.
Ouais.
Est-ce qu'un écrivain, il ne doit pas aussi... peut-être donner envie de nous plonger vers quelque chose d'autre.
Mais ce que je suis en train de faire, mais je ne fais pas ça comme écrivain. Quand je vous parle, je suis juste un être humain. Je ne suis pas un écrivain. C'est comme un être humain, il faut faire tout, mais pas la politique. Et il faut lire Platon. Voilà, ça, il a tout dit.
Avec ce message, on voit l'esprit de sacrifice. Il n'y a pas justement en fait ici le message de l'auteur, le message de l'écrivain, à savoir l'empathie. Voilà. Il faut développer une forme d'empathie envers les autres. Et c'est au contraire, c'est l'idée du sacrifice pour les autres qui peut nous permettre de nous épanouir.
Absolument. La seule chose vraiment dangereuse pour nous, c'est notre propre tête. Il suffit que vous sortez de votre tête et vous faites quelque chose pour votre copain, là, tout va bien. Mais si on reste emprisonné dans notre tête, et si on fait que pour soi, on est comme des mendiants qui ne peuvent plus rien donner, qui ne font que « s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît ». Donc, il y a des gens qui sont doués de l'empathie de naissance. Mais il y a des gens, on est tous doués de l'empathie, tous. Mais il y a des gens qui sont plus ou moins doués. Mais si vous voulez grandir et être quelqu'un de bien, bon, juste et beau, surtout beau, hein, ou belle, faites quelque chose pour l'autre. Et ça, vous serez le plus beau, le plus juste et le meilleur. Ça, c'est pas le message du livre. C'est mon propre vœu pour vous.
C'est quand même aussi le message du livre.
Le message du livre. Aussi. Mais bon, c'était pas comme un texto. Hein. C'est un message bien emballé. Mais à consommer sur place. Oui, je suis en train d'écrire un autre livre, mais qui va faire 3000 pages dans le manuscrit. Attention, dans le manuscrit. Après, je vais le raboter. Et dans 5-6 ans, si je suis encore de ce monde, vous serez toujours de ce monde. Un jour, peut-être, dans 5 ans, vous allez tomber dans la librairie sur un bouquin et vous dites « Oh, je connais ce fou-là qui est venu nous parler. Je connais. » Et peut-être vous allez feuilleter le bouquin. Qui sait ?
C'est quoi le thème ou
Le thème, c'est le livre va s'appeler Le tombeau de Parsifal. C'est l'histoire d'un idiot qui croit qu'il peut sauver le monde et qui commence à faire des bonnes actions autour de lui et qui arrive à sauver le monde autour de lui.
C'est encore un conte philosophique.
J'ai une question. Tout à l'heure, vous avez raconté votre histoire avec l'ours et vous avez dit que vous avez dormi sous la voiture. Mais pourquoi vous n'avez pas dormi dans la voiture ?
Parce que dans la voiture, on dort assis. Est-ce que vous avez déjà visité un char d'assaut ? Non. Bon. Les voitures, les 4x4 militaires hein, aussi, d'époque, c'était comme des chars d'assaut. Hein. Mais sans le canon. Donc, on ne pouvait rien baisser. C'était dur. C'était le tape-cul, comme on appelle ça. Ouais. Et les routes à l'Union soviétique, c'est vraiment plein de poux de nid de poules à vous faire perdre des os. Ou les œufs. Donc, si vous rencontrez au Mans un ours, sans merde ni bonjour, partez, prenez le tram et partez.
C'était la dernière partie de la rencontre avec Dimitri Portnikov dans le cadre du prix littéraire de la région Pays de la Loire.